30 mars 2016, professeur Faustin Kajdoadera accédait à la magistrature suprême de l'État en République centrafricaine. Quel bilan dressons-nous aujourd'hui, 3 ans après? C'est la thématique de notre débat politique Patara de ce samedi sur Radio Ndekeluka. En effet, à l'issue des élections groupées de janvier 2016, Faustin Archange Touadéra a été investi président de la République centrafricaine le 30 mars 2016. La réconciliation nationale, la relance économique, la restauration de l'armée nationale, le relèvement du pays, entre autres, ont constitué ces champs politiques avec comme slogan « La rupture à la tête de l'État ». Dans son discours de circonstance le 30 mars 2019, le chef de l'État s'est félicité de ses 3 réalisations phares, à savoir la sécurité, la restauration de la paix et la relance économique. Pour lui, cette question de la sécurité restaurée dans plusieurs villes a fait revenir la confiance entre l'État et le peuple qui se voyait abandonné entre les mains des bandes armées au lendemain de la prise de son pouvoir. Mais pour l'opposition démocratique, 3 ans écoulés aujourd'hui, le pays est loin de connaître une situation sécuritaire et humanitaire plus meilleure, en dépit de l'accord de paix signé le 6 février 2019 à Bangui par le gouvernement et les 14 groupes armés. Cet accord de paix a permis la nomination de plusieurs représentants des 14 groupes armés à des postes de responsabilité dans les institutions de la République. Question, 3 ans de règne aujourd'hui, le professeur des mathématiques Faustin Archange Touadéra, qui s'approche de la fin de son mandat, a-t-il donné satisfaction ou a plutôt déçu? Réussira-t-il à convaincre le peuple centrafricain par ses réalisations afin de renouveler son mandat en 2021? Pour en débattre, je reçois autour de la table magistrat Joseph Bindoumi, ancien ministre, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme. Magistrat Joseph Bindoumi, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Évariste Ngamana, rapporteur général, porte-parole du mouvement Cœur Uni, en abrégé MCU. Monsieur Évariste Ngamana, bonjour.
Bonjour Hippolyte et bonjour à tous nos auditeurs.
Et monsieur Teiro Kachabaz, secrétaire général, porte-parole du Rassemblement pour la République, en abrégé RPR. Monsieur Teiro Kachabaz, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs de Ndekeluka.
Herman Nambona est notre technicien du jour. Je suis Hippolyte Barbois à l'animation de ce débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
3 ans de règne à la magistrature suprême de la RCA, satisfaction ou déception, avancée ou statu quo? Monsieur Teiro Kachabaz.
Merci beaucoup, Hippolyte. Vous savez, depuis maintenant 3 ans que le peuple centrafricain souffre, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire des débats stériles, mais plutôt des débats construits. Ah. Des débats avec des éléments factuels, scientifiques, que tout le monde peut constater, observer, vérifier. Je crois que aujourd'hui, il est une réalité que chacun peut vérifier, c'est que 80% du territoire national échappe complètement au contrôle de l'État. En 3 ans du président Touadéra, dans ces 80% qui échappent au pouvoir de l'autorité de l'État, 30% ont été perdus directement par le président Touadéra. C'est-à-dire 186 995 km² de la RCA qui ont été perdus directement par le président Touadéra. Ça veut dire que chaque année qu'il a été au pouvoir, 10% du territoire national est perdu par l'autorité de l'État. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un aveu d'ailleurs que le chef d'État lui-même l'a dit, rappelez-vous, face à son homologue, le président Théodore Obiang, je n'arrive pas à contrôler mon pays, la RCA. Ça, c'est un aveu cinglant. La prolifération des groupes armés qui aujourd'hui créent un climat d'insécurité dont plus personne aujourd'hui ne peut douter, fait que sous les 3 ans de président Touadéra, la prolifération a augmenté d'un taux de 29%.
Ça, la prolifération de quoi?
Des groupes armés.
Comment vous avez pu obtenir ce chiffre?
C'est très simple. Vous avez le président Touadéra quand il arrive aux affaires, il y a 11 groupes armés. Aujourd'hui, vous en comptez 16. C'est assez simple. Et puis, seulement un an, rappelez-vous, un an seulement après sa prise de pouvoir, les agences des Nations Unies, la coordination des comités des ONG internationales RCA, que disent toutes ces agences et ces coordinations? Que la RCA, en 2017, était en situation de présidentiel, ce qui n'était jamais arrivé pour un président démocratiquement élu. Et ça même au niveau mondial, je crois que c'est quand même une performance, plutôt une contre-performance, qui ne va pas vraiment dans le sens de la RCA. Plus de 30 000 morts en l'espace de 3 ans, directement à cause du climat sécuritaire qui a été créé et que le président de la République n'a pas subjugulé, en comptant une flopée de prêtres, d'hommes de Dieu qui ont laissé la peau. Une incapacité du gouvernement à pouvoir lever cette question de l'embargo qui aujourd'hui bloque les pieds de nos fakas. Et cette incapacité, elle n'est pas due à des causes exogènes, mais à des causes endogènes. Je parle notamment des insuffisances patentes du gouvernement centrafricain. D'ailleurs, on se rappelle que le 28 février 2018, le Conseil national de sécurité a relevé l'incompétence de l'équipe gouvernementale du président Touadéra. Et ce climat, cette insuffisance, ces limites-là, même Philippe Ogondi, qui est le haut commissaire aux réfugiés aux Nations Unies, que dit-il ? Il dit qu'aujourd'hui, les perspectives sont franchement moroses, car il n'y a pas de volonté de pouvoir résoudre les conflits et d'attaquer les sources, justement, d'insécurité. Dernièrement, je lisais le classement de Global Firepower, qui, chaque année, fait le classement de toutes les armées au monde, dont le classement de cette année. On a fait le classement avec les 34 pays africains dont on a évalué leur armée. Imaginez-vous que sous le président Touadéra, nous avons la performance de faire sur les 34 armées qui ont été analysées, la RCA, les FACA arrivent à la 32e position. 32 sur 34 et au niveau mondial, c'est-à-dire que vraiment nous sommes avant Danayo de l'armée au niveau continental et au niveau mondial, c'est pas une performance meilleure puisque nous sommes
oui, mais ça s'explique du moment où l'armée n'est pas déployée.
On n'est pas là, pour expliquer, on est là pour donner les faits. Après on peut expliquer, mais les faits c'est ça. Aujourd'hui les faits c'est que sur 34 armées qui ont été analysées, structurées, la RCA arrive 32e derrière le micro-état qu'on appelle Sierra Leone, derrière le micro-état qu'on appelle le Liberia. Et en plus c'est sur des critères, une cinquantaine de critères comme la flexibilité logistique, le budget consacré à la défense, des choses comme ça. Ensuite, toujours au niveau sécuritaire, vous voyez bien qu'il y a une inquiétude qui s'est installée, non seulement dans le pays, mais également au niveau du haut commandement militaire. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Vous avez suivi avec nous comment est-ce que les hauts gradés de l'armée centrafricaine, les FACA, ont envoyé une correspondance au chef de l'État pour parler du malaise qui existe actuellement au niveau des FACA, le collectif des généraux. Nous avons enregistré dernièrement des défections, des mises à disposition. Donc, c'est pour montrer que même au sein du haut commandement centrafricain, il y a aujourd'hui des malaises. Et ce climat sécuritaire, avec cet échec sécuritaire, a produit, en tout cas au niveau social, au niveau économique, au niveau humain, des contre-performances qui sont telles qu'aujourd'hui j'ai la tête qui tourne quand je peux les citer. Je les cite rapidement pour qu'on puisse passer la parole à autrui. Rapidement, c'est important. Le président Touadéra a réussi la performance de qualifier la RCA parmi les 14 pays les plus corrompus de l'Afrique. Ça, c'est une performance fantastique. Aujourd'hui, c'est le pays qui a l'IDH le plus faible au monde. C'est-à-dire qu'on est le dernier pays au monde. On est le dernier pays au monde en ce qui concerne la question de la faim. 2,9 millions de Centrafricains qui meurent de faim. Deux années successivement, nous avons été classés pays le plus dangereux au monde pour les Centrafricains et également pour les humanitaires. Le pays le plus déprimé au monde, 74% de la population centrafricaine qui est touchée par la dépression mentale. Le pays dont la capitale est la plus désastreuse au monde, classé 230e sur 231 dans le classement Mercer. Le pays qui compte 1,2 million de déplacés réfugiés, 1,6 million de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire, 1,5 million d'enfants qui sont en extrême besoin d'assistance humanitaire, deuxième pays au monde où le taux de néonatal est le plus élevé. Bon, c'est-à-dire qu'on peut comme ça multiplier les indices.
Ouais, mais je voudrais quand même comprendre, est-ce que toutes ces statistiques que vous développez, tout ce tableau noir que vous brossez, ne date-t-il que de l'époque de Touadéra au pouvoir, c'est-à-dire c'est de 2016 à 2019? Est-ce que ce ne sont pas des trucs qui se sont passés avant? On a connu la sombre époque de la République centrafricaine, 2013, 2014, 2015.
Merci beaucoup, monsieur Marbois. Les statistiques donc, que le RPR ici vient de fournir, ce sont des statistiques de 2018-2019. Ce sont des statistiques que tout un chacun peut aujourd'hui vérifier par rapport à toutes les agences que j'ai citées, que ce soit les classements Mercer, les classements de la Banque mondiale, les classements du World Happiness Report, ce sont les classements du Global Firepower, ce sont des classements qui datent de cette année 2019.
Merci monsieur Teiruka Chabaz, nous allons écouter à propos monsieur Varis Gamana qui est le rapporteur général porte-parole du mouvement Cœur Uni de Faustin Kach Touadéra. 3 ans de règne à la magistrature suprême de la RCA, satisfaction ou déception?
Merci beaucoup Hippolyte, d'abord je voudrais remercier Ndekeluka pour l'occasion que vous nous offrez aujourd'hui pour donner un bilan de ce que le président a eu à faire dans ces 3 années. Je voudrais quand même dire à mon frère Chabaz que nous ne sommes pas là sur le plateau pour donner des connaissances livresques au peuple. Il faut dire la réalité. On ne vient pas compiler des données erronées, des chiffres erronés pour faire du sensationnel. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, l'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître qu'il y a des efforts qui ont été faits, même si on est de l'opposition.
Avec votre permission, je vais être un peu plus exhaustif en donnant le bilan des réalisations du chef de l'État sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique. Sur le plan politique, qu'est-ce que nous avons constaté? Et je rappelle à nos auditeurs, je rappelle à mon frère Chabaz que nous devons tenir compte du contexte dans lequel le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, est arrivé au pouvoir. Et vous avez si bien fait tout à l'heure de soulever que la crise que nous connaissons aujourd'hui ne date pas qu'au temps de Touadéra. Nous sommes conscients que ça fait des dizaines d'années que la RCIA ne fait que connaître des crises récurrentes, commençant par les mutineries, les coups d'État manqués, les rébellions à répétition, pour qu'aujourd'hui nous arrivons à partir de 2016 à ce retour à l'ordre constitutionnel qui a été consacré par l'élection du président Touadéra. Au plan politique, nous constatons que après l'arrivée du président au pouvoir, il a mis en place les institutions telles que prescrites dans la Constitution. Nous avons une assemblée qui fonctionne, le Conseil économique et social, le Haut Conseil de la communication, etc. En plus de cela, sur le plan démocratique, nous constatons aujourd'hui qu'il y a la liberté d'opinion, il y a la liberté d'expression. Aucun homme politique, même de l'opposition, cassé comme Chabal, n'a été inquiété de son opinion. Il n'y a pas de prisonnier politique, il n'y a pas de journaliste qui a été mis en prison parce que il veut que la démocratie fonctionne de cette manière. Au plan de la liberté d'opinion et d'expression, comme je le disais tantôt, nous voyons que personne dans ce pays n'a été inquiété. Voilà les efforts que le chef de l'État a fait sur le plan politique. Et il y a bien d'autres exemples encore. La bonne gouvernance, naturellement, je reviendrai là-dessus quand il s'agira de la question économique. Sur le plan sécuritaire, puisqu'il s'agit de la priorité même du gouvernement, de la priorité même que le chef de l'État s'est donnée lors de son accession à la magistrature suprême de l'État. Sur le plan sécuritaire, je rappelle une fois de plus encore à mon frère qu'en arrivant au pouvoir, le président Touadéra n'a pas trouvé une armée qui est en place. Ça, c'est une vérité et nous devons tous le reconnaître. L'armée était carrément à terre. Nous n'avons pas de poudrière qui existe dans le pays. Nous n'avons pas de matériel pour notre armée. Et je voudrais aussi rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure en ce qui concerne les groupes armés. Je rappelle, pour lui rafraîchir la mémoire, que les 14 groupes armés avec lesquels le gouvernement, par la volonté politique de Touadéra, est rentré en dialogue pour aboutir aujourd'hui à cet accord de Khartoum, ont été constitués depuis le temps de la transition, lors du forum de Bangui. C'est pas aujourd'hui que Touadéra est venu trouver 11 groupes armés et qu'il y a eu prolifération après. Ça, il faut qu'ils le retiennent. Maintenant, sur le plan de la formation de FACA, nous avons vu qu'il y a un travail qui a commencé avec l'Union européenne à travers la mission EETM qui a commencé à former quelques bataillons. Mais puisque le rythme était très lent, le président a sollicité et obtenu de certains états de la sous-région, notamment la Guinée équatoriale, le Rwanda, où certains de nos militaires ont été recevoir des formations en complément pour retourner. En plus de cela, il a fait un plaidoyer auprès du Conseil de sécurité où il y a eu dérogation en ce qui concerne l'embargo pour permettre à la Fédération de Russie de venir aussi former quelques bataillons. Au jour d'aujourd'hui, la Fédération de Russie a formé 1, 2, 3 et 4e bataillon qui est en formation à Berengos. Et en marge de cette formation, puisqu'il y a eu levée partielle de l'embargo, la Fédération de Russie a pu doter en armes légères certains de ces bataillons qu'ils ont eu à former. Aussi, le chef de l'État a fait quelques plaidoyers à travers ses déplacements, son courage diplomatique. Il a fait quelques plaidoyers auprès de certains États tels que la Chine, les États-Unis, etc., qui ont doté notre armée de moyens roulants. Vous avez vu des dons qui ont été faits au FACA en ce qui concerne les moyens roulants, donc les véhicules de transport de troupes. Et la Chine aussi, qui a doté notre armée aussi de moyens roulants et de moyens de mobilité. Il y a eu quelques VAB, des véhicules de transport de troupes, les véhicules de sapeurs-pompiers, les citernes, etc. Donc, tout c'est
des équipements à la flotte maritime.
Exactement. Donc, vous voyez, et la France aussi, qui a fait don dernièrement aussi de certains équipements maritimes, ainsi que quelques armes qui ont été mises à la disposition de FACA. Cela grâce à la volonté politique du chef de l'État. Mais puisque nous sommes encore sous embargo, je crois que cet effort continue pour que d'ici au courant de ce mois, je crois qu'au Conseil de sécurité, la question de l'embargo qui continue de peser sur l'armée va être encore remise sur la table. Une fois que l'embargo sera levé totalement, je crois que les FACA auront les moyens nécessaires pour leur mobilité et leur action. Mais qu'est-ce que le chef de l'État fait encore au plan sécuritaire? Ça, il faut le dire au peuple centrafricain qui nous écoute en ce moment. Quand il est arrivé, nous savons qu'il y a eu prolifération de groupes armés sur l'ensemble du territoire. Il a mis en place une politique qui consiste, ces derniers temps, à mettre sur les lieux d'opération où sévissent les groupes armés, les FACA aux côtés
de nos frères de la communauté internationale, c'est-à-dire la MINUSCA. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que Bangassou a bénéficié de cette politique-là. Il y a la présence de Faka à Bangassou, ce qui a permis de rétablir la paix. Il y a la présence de Faka à Bambari. Il y a la présence de Faka à Sibut, à Pawa, à Bokaranga, récemment à Lindaou. Donc, vous voyez qu'il y a un effort de redéploiement des Faka sur l'ensemble du territoire qui est en cours. Maintenant, sur le plan social, qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Il est arrivé au pouvoir, vous avez constaté qu'il a mis l'accent sur l'éducation. L'éducation, puisque c'est l'avenir de tout pays. Donc, le budget qui était alloué à l'éducation nationale, qui était, à son arrivée, qui était de 5%, est passé de 6-7 aujourd'hui, c'est à 8%. C'est-à-dire que le chef de l'État a donné une importance à la question de l'éducation, d'où il a mis en place cette politique qui consiste à allouer un peu plus de budget en ce qui concerne l'éducation nationale. En plus de cela, il a mis en place une politique qui consiste à ce qu'il y ait un élève, un table banc. Cette politique est en route. Nous avons vu des dons en table banc ont été mis en place puisque nous sommes dans un pays qui regorge de bois. Il est inconcevable que les enfants s'asseyent à même le sol pour pouvoir étudier. Et au jour d'aujourd'hui, certains établissements publics ont bénéficié de dons en table banc et le gouvernement continue toujours dans cette lancée. Sur le plan de la santé, le chef de l'État a mis en place une politique qui consiste à la gratuité des soins de manière ciblée. Vous savez que la crise a fait que le Centrafricain lambda ne dispose pas de moyens pour se soigner raisonnablement. Donc, dernièrement, il y a un décret qui a été pris par le chef de l'État au niveau du ministère de la Santé pour que les Centrafricains qui se trouvant dans des situations difficiles socialement, incapables de se prendre en charge quand ils sont malades, puissent bénéficier d'un appui de l'État. Voilà les efforts qu'il a fait sur le plan social. Sur le plan économique, puisqu'il s'agit de donner les réalisations au chef de l'État, nous avons vu qu'il y a la bonne gouvernance. La bonne gouvernance et les indicateurs sont lesquels? Nous avons les signes palpables. Il y a eu 5 revues annuelles. Nous venons de finir avec la 5e revue qui s'est soldée sur une bonne note, ce qui permettra à notre pays de bénéficier d'aides budgétaires de la part de la communauté internationale. Les indicateurs économiques. Quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, l'indicateur économique de la RCA est carrément au rouge. Aujourd'hui, dans la sous-région, c'est la République centrafricaine qui a un taux de croissance de 5,1%. L'an dernier, c'était 4,7%. Aujourd'hui, nous sommes montés à 5,1%. Ça, on peut le vérifier auprès de la Banque mondiale, auprès des institutions financières. Sur le plan économique toujours, comme nous le constatons si bien, la mobilisation des recettes de l'État ne couvre pas l'ensemble du territoire. Au jour d'aujourd'hui, l'État ne mobilise que les recettes sur 37% du territoire. Mais malgré cela, le président fait des efforts pour payer régulièrement les salaires, les pensions, les bourses, etc.
Et donc, il y a même... que c'est la communauté internationale qui paie les salaires.
La communauté internationale donne des appuis mais ne paye pas le salaire. Vous savez que l'armée et les autres entités sont prises en charge sur le budget de l'État. Autre chose que j'allais oublier, la politique de la route et d'électricité. Quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, vous voyez que sur le budget de l'État, il a eu à bitumer quelques avenues dans Bangui. C'est l'exemple de l'avenue Baïkwa, qui est depuis Gobongo jusqu'à Muskine. L'avenue Semak et l'avenue qui part du côté de la gendarmerie. Et en ce moment, la rue qui descend de lycée technique pour aller vers le stade 20 000 places sur le budget de l'État. Ça veut dire qu'il y a eu une bonne gestion des recettes de l'État à travers sa politique de bonne gouvernance. Et ce qui fait que, vous voyez, il y a eu toutes ces réalisations. Ça veut dire que ceux qui sont passés à la tête de ce pays, si chacun prenait le temps de bitumer ne serait que 2 rues par an, on aurait aujourd'hui bénéficié de beaucoup d'infrastructures. Dans le cadre d'électrification de Bangui, puisque nous faisons face à un problème récurrent de délestage, à travers ces négociations avec la Banque mondiale, nous avons un champ solaire qui va être implanté dans la zone de Dandi, à 17 km de Bangui, pour essayer de réduire la marge
d'accès à l'énergie.
Dernièrement, le chef de l'État était aussi à Boali pour lancer les travaux d'extension de l'usine de Boali 2 qui permettra à Bangui non seulement de résoudre les problèmes de délestage, mais aussi de transférer une partie de cette énergie-là au Congo démocratique et les villages qui sont tout le long de la route qui quitte Boali jusqu'à Bangui seront aussi électrifiés. Voilà en quelques points les réalisations que le chef de l'État a eu à faire dans ces 3 ans. Je vous remercie.
Merci à vous, M. Evariste Ngamana. Parlons justement de la question sécuritaire, cette question qui prend cœur le peuple centrafricain. Nous allons suivre à propos un extrait du chef de l'État où il a noté, selon lui, des avancées dans le domaine de la restructuration de l'armée. Voilà, suivons donc le professeur Faustin Kachdodia.
Au cours de cette 3e année, un accent particulier a été mis sur la réhabilitation des infrastructures militaires. Ainsi, un financement de plus d'1,250 milliard a été approuvé en vue de la réhabilitation de la garnison de Boire et d'autres camps militaires, ainsi que la construction des armureries répondant aux normes internationales. S'agissant de l'emploi des forces, 1300 éléments de FACA ont été déployés aux côtés des forces de sécurité intérieure et de la MINUSCA dans 11 localités du pays pour des missions immédiates de sécurisation sur le terrain sous le commandement des commandants des zones de défense nommés.
C'était là professeur Faustin Kanchwadira qui donne un peu le point des réalisations dans le domaine de l'armée. Magistrat Joseph Bindomé, vous avez un peu servi pendant la période de la transition à ce département de l'armée. Aujourd'hui, le chef de l'État donne quelques chiffres. Est-ce qu'il vous convainc?
Non, nous avons connu des indications qui montrent que si vous prenez 4 gouvernements en l'espace de 3 ans, vous faites la part des choses, vous dites que si on a été obligé de remanier un Premier ministre, vous avez été obligé de nommer un autre Premier ministre, vous avez été obligé de changer de gouvernement, et qu'à la fin des comptes, vous êtes capable de dire que sur le plan sécuritaire, puisque c'est de ça que vous nous interpellez, que 80% du territoire national est occupé par des forces négatives. La préoccupation essentielle, c'est que le peuple centrafricain est préoccupé par le fait que quand on dit que 80% du territoire national est occupé par les forces négatives, le gouvernement ne dit rien. C'est-à-dire le gouvernement ne dit pas non, c'est pas 80%. Et sur quelle base vous tirez 80%?
J'ai eu à le dire ici sur ce plateau quand on débattait sur la question. J'ai dit que c'est une des données erronées parce que sur la base de rien, on avance un chiffre comme ça. Donc, j'ai eu à le dire ici.
Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'aujourd'hui, ce chiffre a-t-il été revu en baisse? Est-ce qu'on a les bonnes statistiques aujourd'hui?
Il faut poser la question à ceux qui avancent ce chiffre-là de nous donner...
C'était juste une parenthèse. Voilà. Merci.
Monsieur
Bindomé, vous
continuez. J'ai encore la parole. Si j'ai encore la parole, je voudrais que vous me laissiez achever parce que sinon, je risque d'être troublé par ma démarche. Alors, donc, je voudrais dire que si on avait fait la démonstration de la sécurité, on aurait pu dire qu'aujourd'hui, voilà les partis de la République centrafricaine que nous contrôlons, que ces partis-là regorgent telle population. Nous sommes 4 millions et demi, 5 millions. Les partis que nous contrôlons, c'est tel nombre de populations. Et puis qu'à cette date-là, nous contrôlons tel pourcentage de notre territoire. Or, il se trouve qu'en matière de sécurité, des préfectures comme la Mambéré-Kadéï, qui, au 30 mars 2016, n'avait pas de problème de sécurité. Aujourd'hui, c'est dans ces préfectures-là qu'on trouve les Siriris. Nana Mambéré n'avait pas de problème. Aujourd'hui, on se retrouve avec les FDPC, ce qui n'était pas là.
FDPC,
3R, qui n'était pas là le 30 mars 2016. Le 30 mars 2016, la ville de Bangassou, la ville de Obo, la ville de Batangafo n'étaient pas des villes occupées. La ville d'Alindao n'était pas occupée. C'est des personnes qui sont parties d'ici et qui ont été convoyées vers le nord du pays, dont nous n'avons fait aucun effort pour les empêcher de se proférer que ces gens sont allés faire du mal. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Si nous, au micro, nous disons au peuple centrafricain où il y a des gens qui sont réfugiés à Bambari, à Alindao, à Batangafo, à Bria, à Bangassou, qui sont dans les camps de personnes déplacées, 3 ans après l'investiture du président de la République, si nous disons à ces gens-là qui sont dans les camps de réfugiés, voilà, nous vous avons apporté la sécurité, nous risquons de dire des choses qui ressemblent à des contre-vérités. Vous allez vous rendre compte que même aujourd'hui, au moment où nous avons signé les accords de paix, nous avons signé pour dire que la guerre est finie. Nous, peuple centrafricain, on aurait pu dire que la guerre est finie depuis le 6 février 2019. Donc, avant le 30 mai. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez suivi que les barrières continuent d'être posées. Vous avez les informations par les hommes de Nourdine Adan qui demandent des patentes, qui continuent à prélever, qui continuent à faire à Bria, qui demandent comme il y ait des permis de conduire qu'ils délivrent à ce niveau. Donc on arrive un peu à la partition déguisée de l'État centrafricain. Et donc moi je dis, sur le plan sécuritaire, mon opinion et l'opinion de mon organisation est tout à fait réservée. Et maintenant, si j'ai écouté mon frère Kamana nous faire les démonstrations sur le plan de l'éducation nationale, je vous informe qu'il y a des pans de notre pays qui, depuis 3 ans, ne connaissent pas ce que c'est qu'une école, des villes entières où les gens ne fréquentent plus. Et quand les gens fréquentent, soit les enseignants ne sont pas là, soit les écoles sont vides. Et on aurait pu parler aussi du domaine de la santé. Ce matin, j'ai suivi votre radio, où on a fait une enquête pour dire combien de personnes accouchent dans les camps de personnes déplacées par mois. On nous a dit qu'il y avait des gens qui accouchaient dans des camps de déplacés au moins 12 naissances par mois dans des camps de déplacés parce que ces gens-là ne peuvent pas accoucher à l'hôpital pour des raisons d'insécurité. Et donc, je voudrais que nous soyons honnêtes autour de cette table pour dire que, très bien, il y a eu l'investiture du président de la République le 30 mars 2016. Malheureusement, les efforts qui ont été menés par les premiers gouvernements et par les autres gouvernements successifs n'ont pas permis de réduire systématiquement la violence en République centrafricaine et n'ont pas permis aux centrafricains aujourd'hui de bénéficier de la liberté d'aller et venir. J'enchaîne ça pour dire que jusqu'à la date d'aujourd'hui, après la signature des accords de paix, Ali Daras à Bambari continue de délivrer des patentes, continue de donner des attestations de reçu de versement des sommes d'argent à tous les transporteurs qui circulent dans sa zone de contrôle. Et donc vous comprenez que vous ne pouvez pas, lorsque le peuple centrafricain vit cela, dire ouvertement à la radio et au peuple que nous avons fait des avancées sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et sur le plan social.
Alors selon vous, il y a encore beaucoup à faire.
Il y a non seulement beaucoup à faire, mais il y a trop à faire. Et notre souci, c'est que nous avons dit, en tant que société civile, au président Touadéra, Dieu vous a tout donné. Les recommandations du Forum national de Bangui avaient tracé la voie à suivre. Et aujourd'hui, toutes les dépenses qu'on engage pour l'accord de Khartoum, qui ne concerne qu'un accord qui oppose le gouvernement à des groupes armés, je mets entre parenthèses, dont on se félicite sur un État comme la République centrafricaine, qu'ils sont 14, comme si c'était un objet de fierté. On perd trop d'énergie pour cet accord-là, alors que les recommandations du Forum national de Bangui auraient permis d'arriver à une amélioration systématique de la situation de notre pays si on avait donné la même énergie qu'on donne aujourd'hui pour l'accord de Khartoum aux recommandations du Forum national de Bangui. Et donc, vous comprenez qu'il y a du chemin à faire sur lequel nous pensons que nous devons très respectueusement attirer l'attention des pouvoirs publics pour dire que ne disons pas à haute voix que tout va bien lorsque nous savons à notre fort intérieur que rien ne va. Et lorsque la communauté internationale nous interpelle, dit, c'est dans quel pays au monde le pouvoir peut crier sur les toits que moi je n'ai pas d'armée? C'est dans quel pays vous pouvez dire je ne suis pas armé? Mais si vous dites que vous n'êtes pas armé, vous amenez les prédateurs à s'occuper de votre sécurité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons plein de mercenaires qui sont arrivés en République centrafricaine.
Merci à vous, président Joseph Binoumi, monsieur Evariste Gamana. Aujourd'hui, il y a trop à faire. C'est ce que le représentant du peuple a dit à travers la société civile, j'entends. Je parle du Parlement. Il y a trop à faire. Quelles pourraient être les contraintes à la non-tenue des promesses du chef de l'État? Au terme déjà de 3 ans, il ne lui reste plus qu'un an et demi à finir son mandat.
D'abord, je voudrais, avec modestie, dire que tout ce que j'ai eu à développer ici, je n'ai pas dit que tout est rose et que tout est très bien, etc. Ça, il faut mettre ce bémol. J'ai commencé à rappeler le contexte dans lequel le président de la République, Faustin Archange Touadéra, est arrivé au pouvoir. Et ça, tout le monde autour de ce plateau en est conscient. Maintenant, les efforts qu'il a eu à déployer, je les ai cités, sur le plan économique, sécuritaire, etc. Mais ça ne veut pas dire que tout est déjà bien. J'ai dit, même en finissant mes propos, que le gouvernement continue toujours dans cette lancée-là pour pouvoir tout faire pour ramener la paix.
Voilà, nous prenons acte que vous dites qu'il reste beaucoup à faire.
Oui, puisque le contexte est difficile, par honnêteté, je vous dis que beaucoup reste à faire, et vous et moi. Parce que nous sommes là, autour de plateau, on fait comme si on n'est que des observateurs. Non, la question de sécurité concerne tout le monde. Ça concerne la société civile, ça concerne l'opposition, ça concerne le pouvoir public. Et d'ailleurs, je me permets de poser une question. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui? On fait aujourd'hui comme si c'est le président Touadéra qui a amené toute l'insécurité. Mais on connaît bien ceux qui ont amené l'insécurité au pays, ceux qui sont les instigateurs, sinon les auteurs intellectuels de la crise que a connue notre pays. Maintenant, s'agissant de l'accord de Khartoum, je crois que la volonté du chef de l'État, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis en place ce qu'on appelle la politique de main tendue. Jusque-là, il est resté dans cette logique et l'heureux aboutissement de cette politique, c'est cet accord. Nous ne nous vantons pas de cet accord, mais nous attendons de voir que chaque parti puisse respecter ses engagements. Le gouvernement, le président de la République, de son côté, il a respecté ses engagements. Et quand nous parlons des recommandations du Forum de Bangui, effectivement, l'initiative de paix n'a fait que reprendre les recommandations issues du Forum de Bangui. Et j'ai eu à le dire ici sur ce plateau, l'accord de Khartoum s'est tenu dans le cadre du strict respect de la Constitution ainsi que des recommandations issues du forum de Bangui. Ça veut dire que la volonté politique du chef de l'État est restée constante. Si vous souhaitez aujourd'hui le cas de Ali Daras ou de Nouridine qui continue d'imposer des taxes, etc., après la signature de cet accord, mais ça n'engage que cela parce que quand on donne une parole, il faut la respecter. Et ça nous permet, du côté du pouvoir public, de pouvoir en aviser devant la communauté nationale.
Mais quand vous dites que ça n'engage que cela, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance?
Non, ce n'est pas un aveu d'impuissance. Ça veut dire que dans l'accord qui a été signé, ils ne sont pas dans la logique de respect de leurs paroles données. Et cela amène le gouvernement à peut-être, à l'avenir, changer de fusil d'épaule. Puisque la première étape, c'était d'aller vers le dialogue. Tout le monde sait que même les grandes guerres au monde ont fini par se résoudre autour d'une table. Et c'est cette logique qui a guidé le gouvernement, le chef de l'État, dans sa volonté politique jusque-là. Mais maintenant, si nous constatons qu'il n'y a pas respect de la part de ceux qui ont été signataires de cet accord, en ce moment-là, il n'y a pas d'autre voie que de pouvoir...
Alors, je voudrais vous fixer tout de suite pour l'accord de Khartoum. Vous savez, lorsque vous êtes revenu et que l'accord de Khartoum a été signé le 6 février, on a nommé un gouvernement. Ce sont les forces négatives qui ont réagi tout de suite pour dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement. On est reparti à Addis Abeba. Et quand on est revenu à Addis Abeba, ils ont dit on n'est pas d'accord. Et hier, on a vu des groupes armés, soi-disant Sénégal Rénové et autres, qui disent non, on n'a pas été pris en compte. Mais comment le gouvernement de la République peut se taire lorsque ce gouvernement-là écoute que, alors qu'ils ont signé l'accord, ces gens violent allègrement cet accord. C'est-à-dire que dans les zones où ils sont censés contrôler, ils disent, on va faire des permis de conduire pour nous, on va faire des taxes à notre niveau, on va continuer de prélever des impôts à notre niveau. Et jusqu'à présent, le peuple écoute et attend pour voir quelle est la réaction du gouvernement avant de saisir le...
Je me permets de vous poser la même question, puisque vous dites vous avez suivi cette nuit. Alors donc, vous attendez la réaction du gouvernement aujourd'hui. Et ce que vous venez de dire, c'est maintenant que je suis informé.
Vous n'êtes pas au courant, vous
avez la preuve que des permis de conduire sont en train d'être délivrés là-bas.
Mais est-ce
que
vous pouvez donner
il faut vérifier les informations avant de les porter sur la place publique.
Alors justement, je reviens à ma question, monsieur Ngamana. Tout à l'heure, je posais la question de savoir du moment où nous sommes d'accord sur le principe qu'il y a trop à faire, quelles sont les contraintes aujourd'hui qui font que M. Todera ne peut pas faire mieux que, voilà, que...
La première contrainte, je vous dis tout de suite, la première contrainte, c'est l'embargo qui continue de peser sur l'armée. Vous savez que nous avons une armée, mais qui n'a pas les moyens de son opérationnalité. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'au mois d'avril, il y aura la question de cet embargo qui sera, parce que le gouvernement continue toujours de négocier la levée totale de cet embargo. Une fois que c'est fait, notre armée va être en pleine opérationnalité et ça permettra au gouvernement, puisque vous savez, un des instruments fondamentaux de l'État, c'est l'armée. C'est l'armée qui permet à un État de garantir sa souveraineté. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des hommes. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas une armée. Il y a des hommes qui ont été formés, qui sont là, mais seulement c'est les moyens d'action. Et vous avez bien fait de soulever la question, de reprendre tout à l'heure le discours du chef de l'État qui dit que nous sommes en train de remettre en place des garnisons militaires, des poudrières, etc. Parce que c'est l'une des conditions qui a été posée pour la levée totale de l'embargo. Il faut que nous ayons des poudrières aux normes internationales pour permettre aux armes qui vont arriver d'être en toute sécurité. Donc, une fois que l'armée aura ses moyens d'action et de mobilité, je crois que ces problèmes-là seront résolus. D'accord. Voilà l'une des contraintes. Aujourd'hui, ça nous le savons, la puissance publique réside dans les forces de défense et de sécurité.
Merci à vous, M. Varis Gamana. M. Tero Kachabaz, d'aucuns disent aujourd'hui que Todera a sacrifié son mandat pour sauver la paix, illustration faite de l'acceptation du partage de son pouvoir avec les représentants des groupes armés. N'est-ce pas un acte de grandeur à saluer?
M. Mabwa, vraiment, ce débat aujourd'hui, je suis assez catastrophé. Très sincèrement, ça fait 3 ans que le président Todera est au pouvoir. Nous attendions à ce que, aujourd'hui, le gouvernement, la mouvance présidentielle, nous présente de façon scientifique. Parce que quand on dit gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est avoir des instruments qui nous permettent de mesurer le recul ou bien l'avancée. De se rendre compte aujourd'hui que la question de la sécurité qui est fondamentale dans ce pays est aussi prise à la légère. Je vois qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, le RPA du président Guédé, vous balancez des chiffres comme ça, inventés, mais je dis ici, c'est une émission qui est écoutée par tous les centrafricains et avec attention. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de venir lancer des chiffres à l'emporte-pièce. Tout ce que nous disons aujourd'hui est entendu, est suivi, est évalué. Quand nous disons qu'au niveau sécuritaire, ça ne va pas du tout, c'est parce que nous avons des instruments qui nous permettent de dire cela. On parlait tout à l'heure de la question des contraintes. Mais déjà, la première contrainte qui fait que le chef de l'État ne peut pas aujourd'hui réussir dans la voie qui s'était donné le 3 mars 2016, c'est la question de la corruption. Transparency International, qui est la plus grande ONG qui lutte contre la corruption, nous dit quoi ? Nous dit qu'il y a une forte corrélation qui existe aujourd'hui entre la corruption et la crise démocratique. Quand vous avez un pays dont l'indice de perception de corruption, IPC, est de 26%, qui est parmi le club des plus gros corrompus de l'Afrique centrale, c'est ce qu'a fait le président Ouattara de la RCA. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui on puisse avoir une armée digne de ce nom pour pouvoir soutenir la RCA ? On nous dit que non, les chiffres que l'on avance concernant la question de la perte de l'autorité de l'État sont des chiffres erronés. Dans la Namambéré, est-ce que l'autorité de Monkey contrôle la Namambéré ?
Oui.
Contrôle l'Ouam ?
Oui, je vous
contrôle Nanagribinzi ? Contrôle la Waka ? Contrôle la Haute-Koto ? Le Hombomou ? Sincèrement, il faut aujourd'hui la vérité. Je veux bien comprendre que chacun puisse défendre son idéologie. Mais aujourd'hui, il y a des familles qui meurent. Moi, je vous parle aujourd'hui. Je reviens d'une mission par rapport au RPR dans l'Anagribizi. Je suis allé voir les camps des déplacés. Imaginez-vous que l'espace que nous avons ici dans le studio est trop grand pour ces populations qui vivent dans ces camps. Le voisin est en face à quelques mètres, à côté, à gauche, à droite. Les toilettes sont à côté. Quand vous mangez, vous levez le pied parce que le voisin va aller aux toilettes. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité dans les préfectures que vous dites pouvoir contrôler. Ça, c'est la réalité.
Mais des réalités qui existent depuis 2013,
c'est voilà. Bien, par la faute de qui ?
Mais, monsieur Marbois, en 2013, de 2009 à 2013, qui était le Premier ministre ? Est-ce que ce n'était pas un certain monsieur Ouattara ? Monsieur Ouattara n'est pas attrait comme ça. Il était aux affaires quand les choses ont éclaté. C'est bien de parler de 2013. 2013 est une conséquence. Mais la cause, c'est pas en 2019, c'est pas en 2013. La cause est avant 2013. Et avant 2013, il était aux affaires. Et si on parlait, par exemple,
qui a amené le Séléka, vous pouvez dire aux Centrafricains qui nous écoutent qui a amené le Séléka.
Monsieur,
il y a des causes lointaines aussi.
Monsieur Ngamana.
Ayez l'honnêteté de dire aux Centrafricains qui nous écoutent. Qui est-ce qui a amené la crise en Centrafrique?
Souffrez que je termine mon propos.
Oui,
je vous ai laissé parler.
Je vous prie de répondre à cette question puisque vous dites qu'on est là pour dire la vérité au peuple. Dites-nous,
monsieur,
au peuple qui nous écoute, qui a permis à la Séléka de rentrer en Centrafrique.
Monsieur Ngamana,
voilà.
La Séléka est une conséquence et l'échec d'une politique.
Mais qui est à l'origine ?
Une politique dans laquelle on se rappelle que le chef du gouvernement s'appelait monsieur Ouattara.
Et pour faire partie monsieur Ouattara, il faut tuer les Centrafricains.
Écoutez,
parce que des hommes politiques comme véreux comme vous étaient derrière la Séléka pour pouvoir amener les mercenaires en République centrafricaine.
Monsieur Marbois,
le sujet, je ne comptais pas venir me faire insulter. C'est les 3 ans de Ouattara, M. Ngamana, je le rappelle.
Vous posez un donneur de leçons alors que vous étiez derrière ce que la RCA connaît aujourd'hui.
S'il vous plaît, est-ce qu'on peut laisser terminer son temps de parole ?
Laissez-moi terminer. Merci beaucoup, M. Marbois, parce que je ne pense pas que je sois venu ici pour me faire insulter. Nous sommes venus pour parler des 3 années du président Ouattara. Nous ne sommes pas venus pour parler de ce qui va se passer demain, mais de ce qu'a fait le président Ouattara, ce qu'il a fait de la RCA, ce qu'il a fait de la promesse qu'il avait faite au peuple centrafricain. Il nous a dit le 30 mars 2016 qu'il était venu pour rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire national.
Justement, Monsieur Ngamano, j'ai une question dans ce sens. Dans sa politique de rétablissement de cette sécurité, je posais la question suivante. Monsieur Ouattara qui accepte de léguer une partie de son pouvoir aux groupes armés pour leur permettre de se calmer, de pacifier les zones où ils exercent leur contrôle. Est-ce que ça, c'est pas un acte de grandeur à saluer?
Écoutez, il faut d'abord analyser ce qu'on appelle la paix. Vous savez que nous avons signé les accords de Libreville, nous avons vu ce que ça a donné par la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on signe des accords pourquoi ? Pour que de tous les côtés, il y ait un minimum de satisfaction, ou bien est-ce qu'on crée des accords pour pouvoir préparer des futures crises ? À l'heure actuelle, on parle de partage de pouvoir. Mais il nous semble que, d'après ce que nous disent ceux qui ont participé pour parler de Khartoum, le RPR du président Guinée n'a pas participé ni en amont ni en aval, il nous semble qu'il s'agissait de partage du pouvoir. Mais dans la réalité, si vous voyez bien les choses, le pouvoir, quand on parle de pouvoir non politique, on parle surtout le pouvoir régalien. Le pouvoir régalien échappe absolument à des entités qui a participé aux accords. C'est comme si je vous disais, monsieur Marbois, que voilà, ce soir, on va partager la maison. Moi, je prends la chambre, je prends le salon, je prends la cuisine, je prends la véranda et je vous laisse les toilettes. Et je dis, voilà, on a partagé la demeure. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec un tel partage, il n'y aura pas de frustration par derrière? La question que je me pose, c'est que, est-ce que les conditions de négociation du gouvernement à Khartoum signé à Bangui n'ont pas déjà en gisine en elles-mêmes des soubresauts de quelque chose qui va mal tourner plus tard? Parce que aujourd'hui, l'accord a été signé, il y a eu des contestations du FDPC, des contestations du UNDP, des contestations du Patri, des contestations aujourd'hui encore, c'est le cas rénové. Donc, les ingrédients d'une nouvelle crise sont encore en gésine.
Merci. Dans la même lancée, M. Joseph Bindoumé, aujourd'hui, sauver la paix en léguant une partie du pouvoir de l'État à des groupes armés, est-ce une cause juste ou une erreur politique?
Je réponds deux questions essentielles. La première question, c'est l'embargo. On nous a dit que l'embargo est la cause de nos difficultés. Je dis non. L'embargo contribue peut-être à 10% des difficultés de la République centrafricaine, mais n'est pas la cause essentielle. Je vous donne ces exemples-là. Nous avons formé plus de 1000 militaires. À Noula, il n'y a pas de rébellion. Mais nous sommes frontières avec le Cameroun. On a envoyé 15 militaires pour protéger toute la zone qui sépare la République du Cameroun et la République du Congo. À Berberati, nous n'avions pas de guerre là-bas. Si nous avions déployé 100 militaires avec les véhicules qu'on nous donne pour patrouiller, on n'aurait jamais eu Cyril là-bas. À Boire, qui est notre base militaire. Si on avait déployé des militaires, je prends 300 militaires à Boire pour protéger le corridor, on n'aurait jamais eu les gens du FDPC qui couperaient les relations de la nation. C'est-à-dire qu'on ne recherche pas la solution sécuritaire dans la guerre des étoiles. Nous ne parlons pas en termes de missiles sol-sol ou missiles sol-air. On parle en termes des hommes qui, debout, avec l'uniforme de la nation, se mettent et empêchent les crimes de se commettre. Ça, c'est le premier problème que je réponds pour l'embargo. Donc, ce qu'on chante pour l'embargo, ce n'est pas bien parce que on donne l'impression que c'est quand l'embargo sera levé, qu'on va protéger les préfectures comme la Lobaye. La Lobaye fait frontière avec la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville. Mais il y a combien de militaires qui, aujourd'hui, sont basés, par exemple, à Mungumba? Il n'y en a pas. S'il y en a, vous trouvez 15 ou 20 militaires. Alors que nous aurions pu, dans cette préfecture riche de notre pays, montrer quand même qu'il y a une armée qui nous protège. Maintenant, quand vous me dites, est-ce que en cédant le pouvoir aux groupes armés,
c'est une cause juste ou bien une cause juste,
c'est une erreur politique? Ma réponse est claire. Il s'agit d'une erreur politique. Il s'agit, répétez, une erreur politique. Erreur politique, pourquoi? Parce que le pouvoir n'est pas le pouvoir du président Touadéra. Vous ne pouvez pas dire, oui, c'est le pouvoir du président Touadéra, il a été très gentil pour donner son pouvoir à quelqu'un. Ce n'est pas le pouvoir du président Touadéra. Le pouvoir est le pouvoir du peuple. Et c'est le peuple qui a désigné Touadéra pour le représenter avec son pouvoir entre les mains. Donc c'est le pouvoir du peuple. Et vous ne pouvez pas céder ce pouvoir-là sans demander l'avis préalable du peuple. Et la Constitution dit que lorsque la nation est menacée, lorsque le territoire est attaqué, le président de la République va à l'Assemblée nationale, lance un appel à la nation pour annoncer que la nation est occupée et les députés lui donnent mandat de mettre tout ce qui est à son pouvoir pour libérer la nation. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de l'armée, toute la nation devient combattante et libère la nation. C'est ça. Et donc, vous ne pouvez pas, sous prétexte que vous avez été élu, prendre le pouvoir que le peuple vous a donné et dire, bon, moi je veux la paix, les groupes armés prennent et puis on va avancer. Parce que quand vous prenez, vous ne savez pas ce que vous allez obtenir comme résultat. Sassou Nguesso avait le groupe du pasteur Toumi. Il n'a jamais cédé le pouvoir que le peuple lui a donné au pasteur Toumi pour avoir la paix. Le Tchad d'Idriss Déby avait toutes les rébellions au Tchad, mais il n'a pas cédé le pouvoir que le peuple lui a donné pour donner au groupe rebelle. Vous vous êtes rendu compte qu'au Soudan, Béchir avait des rébellions, mais il n'a jamais cédé le pouvoir comme ça. Il fallait demander l'avis du peuple et il fallait un référendum pour que le Sud soit devenu aujourd'hui une nation. Donc il y a des conditions pour céder le pouvoir du peuple et de le donner à autrui. Voilà les observations.
Merci, Joseph Bindoumé, justement.
Une erreur politique.
Est-ce qu'au niveau du mouvement Kérouné, vous êtes conscient de cette erreur politique, M. Ngamana?
Je m'inscris en faux par rapport à tout ce qui vient d'être dit parce que je respecte l'opinion de M. Bindoumé, mais je crois que le fait de donner une partie du pouvoir au groupe armé n'est que la conséquence logique de l'engagement qui a été pris lors de la signature de l'accord de Khartoum. Pour notre part, c'est un acte, c'est un courage politique qu'il faut saluer de la part du président Touadéra. Alors, il vient de citer quelques pays où les gens n'ont pas eu à céder une partie du pouvoir, mais parce que ces pays sont fortement armés et ils sont obligés de tenir tête par rapport à ces bandes armées. Mais nous sommes dans un pays fragile. Je répète encore que le contexte dans lequel le président Touadéra est arrivé au pouvoir, tout le monde ici autour de cette table le sait. Et je suis au regret aussi de constater aujourd'hui ce double langage-là. À plusieurs reprises, on a débattu ici sur ce plateau. L'opposition démocratique, même la société civile, a eu à dire ici que la solution de sortie de crise ne peut se faire que par voie de dialogue. Le président Touadéra est rentré dans cette logique. Il a dialogué avec les groupes armés.
Il est en train de trouver une solution d'apaisement pour ramener la paix. Maintenant, on dit que non, la solution n'est pas celle-ci. Mais finalement, qu'est-ce que eux ils proposent comme solution?
Non, dialogue, et... oui, mais pas partage de pouvoir
oui,
en cascade
puisque,
de groupes armés.
Puisque ces groupes armés, il y en a qui disent que parce qu'ils n'ont pas été associés à la chose publique, c'est pourquoi ils se sont révoltés. Prenons le cas de ceux qui sont peut-être dans la zone de la Vakaga, Bamingi, Bangora. Ils disent parce qu'il n'y a pas la route là-bas, etc. Maintenant, on les met devant un fait. Certains ont été responsabilités au ministère de l'équipement et du développement routier. Donc maintenant, on verra qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre pour pouvoir développer leur localité. Donc voilà l'effort qui est en train d'être fait. Ne voyons pas tout en noir dans l'effort de paix que le président Touadéra est en train de faire. Et avec votre permission, Hippolyte, j'entendais tout à l'heure mon frère Shabazz qui était en train de conclure, il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va mal tourner plus tard derrière ce qui se passe, parce qu'il a cité quelques hommes politiques, etc. Alors, ça me permet aussi de dire aux Centrafricains qui nous écoutent que malgré l'effort de paix qui est en train de se faire par le président Touadéra et son gouvernement, nous avons des gens qui continuent de penser que quelque chose de mal va venir encore à l'avenir. Donc, ils ont le secret, qui disent au peuple centrafricain qui nous écoute ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer pour que ça puisse arriver de mal. Je vous remercie.
Ce n'est qu'une interrogation en tant que politique. Il faut savoir anticiper sur ce qui pourrait arriver.
Mais nous savons aussi ce qui s'est passé pendant Libreville. Nous savons aussi ce qui s'est passé.
Merci. Aujourd'hui, on a suivi, depuis qu'il a pris le pouvoir, Faustin Kash Touadéra avait promis la rupture à la tête de l'État. 3 ans plus tard, cette rupture est-elle perceptible d'après vous, M. Shabazz?
Ben, écoutez, M. Marabois, quand je vois l'état d'inquiétude de M. Ngamana, je comprends qu'effectivement...
Je m'inquiète à rien.
Absolument.
Non, je m'inquiète à rien.
Donc, par rapport à la rupture, oui, il y a absolument une rupture. Il y a une rupture parce que nous attendions à ce que nous ayons un pays démocratique, mais malheureusement, avec les 3 ans du président Touadéra, nous sommes très loin de cela. Notre ami le Diarkab Ngamana nous parlait du fait que ici, en RCA, il n'y a pas de persécution de l'opposition, mais je tiens quand même à rappeler que un des plus grands crimes qu'on puisse faire contre la démocratie, c'est le fait que on utilise l'argent de l'État pour débaucher politiquement des élus de l'État. Le RPR du président Guédé a été victime de cette attaque contre la démocratie. Ça, c'est une réalité. Nous avons eu des députés élus sous la bannière RPR, des députés indépendants élus avec le soutien de l'APA. Tous ces députés qui font près d'une vingtaine ont été débauchés. Et ça, c'est une attaque contre la démocratie. On ne peut pas aujourd'hui.
Ce que vous dites n'est pas vrai.
Monsieur Ngamana, pourquoi à chaque fois que je parle, vous sentez toujours le besoin de pouvoir couper la
parole? Les députés RPR ont quitté le parti. Je lui donnerai la réponse tout à l'heure.
C'est une réalité. Donc, deuxièmement, rappelez-vous qu'une commission d'enquête judiciaire a été mise en place, donc c'est carrément une juridiction extraordinaire qui a été mise en place pour traquer des hommes politiques, dont le président Guindé. Et nous avons vu que le résultat de cette traque judiciaire contre un homme politique a fait chou blanc. Nous rappelons que même un homme politique de la mouvance présidentielle, qui est le président Kolingba, a été victime, sermonné, secoué pour avoir commis le crime de lèse-majesté de vouloir organiser un meeting politique dans la zone, entre guillemets, de juridiction du MCU. Non, parce que apparemment, le 4e arrondissement, c'est appartient au MCU. Vous n'avez pas le droit d'aller faire des meetings politiques là-bas, au risque d'être séquestré par...
Ne soyez pas ridicule, monsieur.
Non, mais c'est une réalité.
Cet acte s'est passé avant la mise en place du MCU. Je vous rafraîchis la mémoire. Oui, vous n'êtes pas là pour dire des choses qui ne sont pas vraies.
Calmez-vous, monsieur. Voilà. Calmez-vous.
Rétablissez la vérité.
Je sais que les 3 ans...
L'incident qui s'est produit par rapport à la présence...
Oui, mais en tout cas, je vois que vous ne contestez pas l'existence de l'incident et d'une extrême gravité. Et je vois que monsieur Ngamana ne conteste pas ce fait-là.
Ça n'a aucun lien avec le MCU.
Qu'un homme politique d'une importance comme le président du RDC puisse être séquestré parce qu'il a tenu un meeting politique dans un lieu privé, ça, apparemment, ça n'a pas l'air de choquer monsieur Ngamana. C'est une réalité. Et c'est pour ça que je dis que, effectivement, nous avons eu une rupture avec le président Touadéra. Et cette rupture-là, c'est la rupture de la démocratie. Nous l'avons rappelé ici avec des chiffres que monsieur Ngamana ne peut pas contester. Ce sont les chiffres qui viennent de Transparency International, de la Banque mondiale, de Werber. Ce sont des chiffres qui sont incontestables et qui montrent que ce pays-là, que Touadéra nous a laissé aujourd'hui, c'est un des pays les plus corrompus, un des pays les moins protégés, un des pays où on meurt le plus de faim. Ça, c'est une réalité.
Merci à vous, monsieur Shabazz. Je vois que nous sommes vraiment pris par le temps. Nous allons aller très rapidement pour évacuer quelques questions que nous avons aujourd'hui. Un magistrat Bindoumi, le chef de l'État, avait aussi promis de faire de l'impunité son cheval de bataille. Aujourd'hui, la promotion faite aux leaders des groupes armés, ceux qui sont potentiellement inquiétés par la justice, ne contredit-elle pas cette promesse?
Vous savez que la question que vous me posez est une question très difficile parce que c'est les victimes qui répondent à votre question. C'est une situation très grave pour laquelle la République centrafricaine a pris un coup dur. Ça, je dis sur votre plateau, parce qu'aujourd'hui, il y a des organisations internationales qui retirent leur soutien à la République centrafricaine parce que nous avons mis dans un gouvernement des gens qui ont du sang dans les mains. C'est-à-dire que des gens dont on sait qu'ils ont contrôlé des zones qui ont été à l'origine des massacres de population dans les églises, qui ont été les massacres de population dans les camps de déplacés. Nous les avons acceptés pour les mettre dans le gouvernement. Et comme la diplomatie est l'art de donner l'impression de s'accorder sur ce qu'on refuse, on a dit bon, on salue les accords de paix, mais après ils ont dit nous avons notre principe en notre sein, nous ne donnons pas nos moyens pour soutenir un gouvernement dans lequel il y a des gens qui ont le sang dans les mains. Donc nous avons pris un coup. Mais pour la justice centrafricaine, vous savez que beaucoup d'organisations internationales ont documenté des crimes. Avant, nous n'avions pas les moyens modernes que nous avons aujourd'hui. Vous savez qu'il y a eu des enquêteurs qui sont venus d'Amérique, d'Europe, d'Asie et autres pour enquêter sur notre territoire en raison des graves crimes que nous avons commis. Et nous avons même des bureaux sur place en République centrafricaine qui se sont chargés de documenter les faits. Et aujourd'hui, les faits qui ont été documentés, mais les responsables de ces faits ont été nommés à des postes qui leur donnent une immunité diplomatique parce que les fonctions qu'on leur donne sont des fonctions qui vont leur permettre de voyager avec un passeport diplomatique. Alors donc, ça c'est quelque chose qui va contre la lutte contre l'impunité que nous devons mener et qui va contre les recommandations du Forum national de Bangui qui avait dit « impunité zéro » en République centrafricaine.
Et vous, vous êtes vraiment inquiet par rapport à cette situation?
Je suis totalement inquiet. Et toutes les victimes de ce conflit sont inquiets, totalement inquiets. Et je pense que ce que je dis à votre radio permettra au pouvoir public de se rattraper. Nous avons des dossiers très graves, des gens qui sont passibles de la Cour pénale spéciale, qui sont passibles de la Cour pénale internationale en raison des atrocités qu'ils ont données à la personne humaine. Et aujourd'hui, qui peuvent se réclamer de faire partie de notre gouvernement. J'ai vu dans un communiqué quelqu'un dire « Moi, j'ai été dans la rébellion de 2001 à 2003 et puis je suis intégré dans l'armée en 2004 et puis intégré dans l'armée en 2004. » Entre-temps, on a pris une loi d'amnistie en 2003 pour effacer tous les crimes de la rébellion. Après, ils ont continué de commettre des crimes. Et en 2008, on a pris une loi d'amnistie pour effacer ces crimes. Et puis la personne continue de tuer et puis devient responsable au sein de notre État. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas passer dessus pieds joints. C'est trop grave dans notre lutte contre l'impunité.
Merci à vous, M. Joseph Ndoumi. Nous allons terminer avec vous, M. Varis Ngamana. Aujourd'hui, 3 ans à la tête de l'État, Faustin Archange-Touadéra ne fait pas l'unanimité. Pas l'unanimité, en ce sens que beaucoup de ses alliés ont fait défection, à l'exemple de Charles Armel Douban, Nicolas Tchangaï, Ferdinand Alexandre Nguende, Clopin Polikoumba, Joseph Bindunga, Jean-Serge Bokassa, Edi Simfouré Kwarikouti, j'en passe. Alors, c'est quoi le message derrière? Est-ce que cette situation vous inquiète-t-elle?
D'abord, cette question mérite d'être posée à ceux qui ont fait défection. Ils vous diront pourquoi ils ont fait défection. Ben, c'est leur liberté. Hein. Je crois que nous sommes dans un pays démocratique. Il ne m'appartient pas de juger pourquoi ils ont fait défection. Mais je voudrais quand même, avec votre permission, revenir sur la question d'impunité. Je crois que l'une des prétentions que les groupes armés ont amenées à Khartoum, c'était de pouvoir d'arrache-pied avoir ce qu'on appelle l'amnistie. Et cette question n'a jamais été retenue du côté du gouvernement parce que, figurez-vous, dans la feuille de route de l'initiative de l'Union africaine, il a été nullement question d'impunité. Donc on a dit impunité zéro, conformément aux recommandations issues du Forum de Bangui. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, étant entendu que, sur la base du principe de séparation de pouvoir, même si ces gens sont nommés aujourd'hui dans le gouvernement, au sein des institutions, si la justice venait à leur reprocher un fait, ils seront obligés de se présenter devant la justice et la justice fera son travail. Ça, il faut dire au peuple centrafricain que le fait de nommer les personnalités qui étaient à l'origine de certains crimes n'entache en rien la poursuite judiciaire, puisque j'ai dit ici une fois que la justice c'est comme une vieille dame hein, qui marche lentement mais sûrement, et assurément viendra le jour où chacun aura à répondre de ses actes. En ce qui concerne les défections de quelques hommes politiques que vous venez
des alliés, voilà. Aujourd'hui, vous,
pourquoi ils étaient devenus alliés? Parce qu'ils étaient tous candidats pendant le premier tour des élections. Et c'est parce qu'ils n'ont pas réussi, ils étaient obligés de faire alliance avec le président Touadéra, pour des raisons que eux-mêmes ils le savent. Certains, peut-être, s'attendaient à d'autres choses et comme ils n'ont pas pu trouver, ils sont obligés de sortir. Et autre chose, je vous dis que c'est aussi une guerre de positionnement. Puisque vous voyez, tout ce monde-là, la plupart, c'est des candidats à l'élection présidentielle. Et puisqu'on s'approche de l'échéance, chacun commence déjà à se positionner, etc. Donc, quitte à eux de dire au peuple centrafricain pourquoi ils ont fait défection, je suis pas là. Mais de notre côté, nous constatons simplement qu'ils ont la liberté de se positionner là où ils veulent.
Alors, voilà, à un an et demi de l'échéance, comme vous venez de le dire, quelle assurance donner au peuple?
Pour l'instant, nous ne sommes pas encore à l'échéance. Vous dites bien qu'on est encore à un an et demi. Ce qui est essentiel pour le gouvernement aujourd'hui, pour le président de la République, c'est de continuer à travailler au retour de la paix, de continuer à travailler pour le relèvement du pays et cette question viendra en son temps.
Je vous remercie. Fin de ce débat Patera sur Radio Tekeloka qui, je le rappelle, a été consacré à l'an 3 à la magistrature suprême de l'État en Centrafrique de Faustin Archange Touadéra. Mes invités, je le rappelle, étaient magistrat Joseph Binomi, président de la Ligue Centrafricaine des Droits de l'Homme, M. Varis Ngamana, rapporteur général, porte-parole du mouvement Cœur Uni, et M. Théro Kachaba, secrétaire général, porte-parole du Rassemblement pour la République, RPR. Merci à tous les auditeurs qui ont accepté de rester à côté de leur poste pour suivre ce débat. Herman Nambona, la technique Hippolyte Marois, l'animation, vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre thématique.